du temps où les dinosaures peuplaient une planète à la végétation luxuriante. Un bout de rocher mesurant à peine 10 000 km² vint tout bouleverser. Des centaines de milliards de tonnes de débris et de pierres furent projetées dans l'atmosphère.
Voilà, c'est le début du film Armageddon. Axel, et à la une, un gisement fossile en tout point exceptionnel, témoin de la plus grande catastrophe de l'histoire de la Terre.
Oui, c'est ce qu'il semblerait, Mathieu. Le paléontologue américain Robert De Palma et ses équipes ont vraiment mis la main sur une perle rare. Le gisement de Tanis au Dakota du Nord ressemble à première vue à un fatras d'os, de coquillages et de branches fossilisées. Mais en regardant de plus près, il est très probable que ce méli-mélo de vie figé soit la conséquence directe, à 15 minutes près, allez, de la chute de la météorite géante de Chicxulub, qui mit fin au règne des dinosaures sur la Terre, on le sait tous. L'étude est très commentée depuis sa sortie cette nuit dans la revue PNAS. Et pour en parler, nous sommes avec Romain Amiot, en direct depuis les bureaux de Lyon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chargé de recherche pour le CNRS au laboratoire de géologie Lyon 1. Alors, l'étude est parue cette nuit, on était encore le 1er avril, on aurait presque pu croire à un poisson d'avril tellement c'est exceptionnel, non ?
Oui, en fait, c'est vraiment ce qu'on s'est dit avec les collègues hier. Mais un poisson d'avril qui était un petit peu en avance et pour lequel de nombreux journaux comme le New Yorker ou encore le National Geographic seraient tombés. Mais finalement, c'est vous qui m'avez annoncé que non, ce n'était pas un poisson d'avril. Et puis après, l'article est finalement apparu.
Ouais. Alors, quels sont les restes de vie qu'on trouve dans ce gisement de Tanis ? Pourquoi ils sont si exceptionnels ?
Alors, les restes que l'on trouve dans ce gisement, ça va être principalement donc d'un mélange de faune marine, alors des quelques restes d'ammonites et d'une faune plus continentale, avec des poissons d'eau douce en grande quantité. D'ailleurs, c'est un des fossiles principaux dans l'objet dont l'étude parle, mais également des restes de végétaux, des branches avec de feuilles, et également d'autres restes de vertébrés. Alors dans le papier, il mentionne un fragment d'os de dinosaure. Et puis donc divers restes d'autres vertébrés.
Alors, ce qui met la puce à l'oreille au début, c'est la datation, c'est ça, hein, 65, quelque chose millions d'années. C'est là qu'on commence à se poser des questions.
Alors, il y a la datation d'une part, mais c'est surtout la présence dans ce mélange de restes fossilisés d'animaux, de fragments, de sphérules et d'éléments en fait provenant de matériel éjecté par la météorite. Donc, par une météorite.
Ça voudrait dire que la météorite est tombée à 3000 km de là et a envoyé des débris jusqu'à ces poissons qui, après, auraient été fossilisés. C'est comme ça qu'il faut l'imaginer ?
C'est comme ça, en tout cas, que les auteurs présentent le scénario pour expliquer leur présence ici. Donc, effectivement, la composition, l'étude de ces fragments, donc de roches fondues, de petites sphérules, d'éléments qui ont été choqués, leur composition géochimique, en plus, montre que ils ont exactement la même signature que celle que les éléments issu de la comète de Chicxulub, donc qui s'est crashée dans la péninsule du Yucatan au Mexique il y a à peu près 66 millions d'années. Et donc c'est en se basant sur ces divers éléments, donc ils ont proposé que on aurait ici là pour la première fois, parce que c'est vraiment la première fois, un gisement qui enregistre directement et au même moment, en fait, cet événement catastrophique.
Mais alors, Romain Amiot, qu'est-ce qui permet vraiment de faire cette chronologie qui se joue à 15 minutes alors qu'on parle de choses qui ont eu lieu il y a des millions d'années ?
Alors, en fait, c'est la chronologie est essentiellement basée sur l'interprétation que les auteurs ont fait du sédiment et du type de dépôt qui a été retrouvé. À savoir, c'est un dépôt de type tsunami, c'est-à-dire un espèce de gros mélange d'éléments marins, d'éléments continentaux, d'éléments d'eau douce complètement désordonnés. Mélanger à cela donc ces fameuses restes d'éjecta de météorites, et en se basant sur des modèles qui permettant de d'estimer le temps que mettraient par exemple ces éjecta pour atteindre ce gisement à plus de 3000 kilomètres du site d'impact, et également les
simulations.
Oui, les simulations de des ondes sismiques qu'aurait généré l'impact. En fait, ce qu'ils ont déterminé, c'est que à peu près il y aurait quelques dizaines de minutes, se serait passé entre le moment de l'impact et l'enregistrement qui aurait été fait de ce gisement.
Romain Amiot, vous étonnez nos invités. Hein. Je vois Jacques Jaubert réagir. Ça vous sidère finalement cette proposition là.
Bah oui, parce que les préhistoriens sont confrontés à ce qu'on appelle le temps long, le temps court, et là c'est le temps extrêmement court. Enfin, ouais. C'est bluffant votre histoire.
Vous êtes convaincu, vous, Romain Amiot, par ce travail et par l'enchaînement tel qu'il est proposé?
Alors, en fait, sur les éléments qui sont avancés, effectivement, sont très convaincants. Effectivement, on a bien, d'après les analyses, les études qu'ils ont faites, que ce soit géochimique, que ce soit sédimentologique et au niveau de la préservation des fossiles, qu'effectivement, ce gisement est quelque chose d'exceptionnel et qui s'est établi en pas très longtemps, en quelques minutes, peut-être quelques heures, et qui a effectivement enregistré. Alors peut-être pas la météorite qui s'écrasait sur Chicxulub, mais en tout cas des éléments de quelque chose qui faisait partie de ce groupe de météorites. On pense aussi que peut-être que cette météorite n'est pas arrivée toute seule sur Terre. En fait, elle a dû se fractionner. Il y en a peut-être une certaine quantité. En tout cas, sa signature géochimique indique bien que elle provient de la même famille de météorites que celle qui s'est écrasée dans le Yucatan. Et l'ensemble de toutes ces informations, effectivement, m'ont paru assez convaincantes sur par rapport à l'interprétation qu'ils en font.
Est-ce que en cherchant bien autour de cet endroit, on peut peut-être trouver un dinosaure enfoui par ce tsunami? Là, on aurait vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Ah ben, je pense que c'est ce que les collègues américains rêvent de faire, c'est de lier directement la météorite avec la fin des dinosaures. Alors dans les supplémentaires matériels, c'est-à-dire en fait tout un tas d'informations supplémentaires qui sont disponibles en plus de l'article, ils décrivent effectivement la découverte d'un fragment d'os de dinosaure qui s'apparente au Triceratops, l'un de ces derniers dinosaures qui vivait en Amérique du Nord. Et qui était aussi contenu dans le gisement, mais par contre l'état de préservation de ce fragment indique plutôt que c'était un animal qui était déjà mort quand il a été mélangé avec le gisement. Donc on n'a pas exactement
le symbole.
On n'a pas le symbole encore. Ouais.
Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Romain Amiot, pour vos commentaires sur cette publication très commentée justement depuis 2 jours au moins. Merci à vous, Axel. À demain.
À demain.
Dans le reste de l'actualité, la présence de méthane dans l'atmosphère martienne confirmée après un premier résultat contesté en 2014, l'équipe internationale de la sonde Mars Express a réussi à améliorer la qualité des données recueillies. Il détecte donc une seconde fois ce méthane, très important pour les planétologues, puisqu'il pourrait être un indicateur d'une vie microbienne. Et cerise sur le gâteau, l'équipe de Marco Guarana pense avoir réussi à localiser la source de cette émission dans une région de faille située à l'est du cratère Gale. Comment tromper les moustiques à Aedes aegypti, vecteur du paludisme? Repère l'homme à l'odeur de sa sœur, capté par des récepteurs situés sur sa trompe. Des chercheurs de Floride démontrent cette semaine que lorsque ces récepteurs sont inactivés, les moustiques ont 50% de chance en moins de nous trouver, donc de nous piquer. Seulement 50%, oui, car ils sont aussi capables de nous suivre en traquant le CO2 que nous émettons et la chaleur que nous dégageons. Et puis pour terminer, une photo très attendue. La semaine prochaine, l'ESO, l'Observatoire européen, s'apprête à faire une annonce qualifiée de révolutionnaire. En 2017, le consortium avait pris la première photographie directe du trou noir du centre de la galaxie. 2 années de travail plus tard, le cliché semble prêt à être dévoilé. En effet, plusieurs conférences de presse sont prévues le 10 avril prochain dans plusieurs endroits du globe à 15h heure française. La tête au carré consacrera une spéciale trou noir le lendemain, du coup le 11 avril, pour commenter cette annonce.